Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Et Brice qu'on retrouve par téléphone, reconfinement oblige. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et la rivalité, Brice, entre Washington et Pékin a pris un tour plus idéologique ces derniers mois à l'occasion de la lutte contre le coronavirus. Pékin exploite ses succès sur ce front.
Et oui, parce que le bref moment de l'hégémonie américaine est désormais derrière nous. Les États-Unis observent avec inquiétude la montée en puissance de la Chine sur tous les plans, économiques, technologiques et militaires. Mais ce qui les préoccupe le plus, c'est peut-être la concurrence que le modèle politique chinois, autoritaire et centralisé, oppose au leur, pluraliste et libéral. La manière dont la Chine a réglé le problème du coronavirus, pourtant né sur un marché de Wuhan, impressionne le monde entier. En 10 jours, les autorités ont testé les 11 millions d'habitants de la ville. Le virus y est éradiqué. Pékin brandit ce nouveau succès comme une preuve de la supériorité de son mode d'exercice du pouvoir. En face, la manière chaotique dont l'administration Trump a traité la crise sanitaire peut en effet servir de contre-exemple. Le virus a déjà tué 236 000 personnes aux États-Unis. Il ne faut pas se laisser abuser par la propagande de Pékin, écrit Yuan Hang, un professeur de Ann Arbor dans le Michigan. D'abord, la Chine n'est pas le seul État à avoir triomphé du virus. Plusieurs autres pays ont obtenu des résultats encore plus spectaculaires. Or, beaucoup d'entre eux sont d'authentiques démocraties. La Nouvelle-Zélande, 25 morts. Taïwan, 7 décès seulement. La Corée du Sud, 466. Ensuite, même si la Chine connaît un revival autoritaire avec Xi Jinping, le décollage économique spectaculaire de son pays, du pays qu'il dirige aujourd'hui, doit beaucoup à la libéralisation déclenchée par Deng Xiaoping et poursuivie par ses successeurs. Deng, je cite, a neutralisé les périls de la dictature en injectant dans sa bureaucratie des caractéristiques démocratiques, écrit Yuan Hang. Quant à la démocratie américaine, elle sort en bien triste état de 4 années de trumpisme et elle présente aujourd'hui des traits illibéraux. Les caractéristiques autoritaires et monolithiques du pouvoir chinois lui viennent de ses origines révolutionnaires. Mais ce que Pékin présente comme un avantage, cette capacité à mobiliser l'énorme appareil du parti unique pour encadrer la vie économique et sociale, présente aussi des faiblesses. Les politiques sont menées sur le mode des fameuses campagnes maoïstes, mobilisant toutes les ressources en vue d'un objectif à atteindre à tout prix. Concentrer nos forces pour parvenir à de grandes choses, dit Xi. Mais pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés, nombre de responsables locaux sont tentés de falsifier leurs résultats. En outre, ce type de campagne nécessitant des mesures extrêmes a tendance à créer de nouveaux problèmes mal perçu sur le moment.
Et donc, Brice, il serait erroné donc de considérer la rivalité entre les États-Unis et la Chine sous l'angle d'une concurrence entre démocratie libérale et autocratie néo-communiste.
Eh bien, ce n'est pas l'avis de Christopher Lane. Dans un article qui vient de paraître dans Foreign Affairs, cet universitaire américain appartenant au courant néo-réaliste met en garde contre la tendance récente du département d'État à surcharger d'idéologie la montée des tensions entre Pékin et Washington. La Chine n'est pas l'URSS, elle ne cherche pas à exporter le communisme, mais, écrit-il, sa trajectoire de superpuissance va provoquer dans le monde un regain d'attraction pour l'autocratie. Comme beaucoup d'autres commentateurs, Lane dresse un parallèle avec la pente fatale qui mena la Grande-Bretagne et l'Allemagne vers l'issue fatale de la guerre de 14 en somnambule, selon l'expression de l'historienne Margaret Macmillan. Comme les Anglais alors, les Américains voient leur rival chinois accéder au rang de compétiteurs irrésistibles et ils plaquent sur cet antagonisme les récents souvenirs de la guerre froide qui les a opposés à l'URSS. Or, la situation n'a rien à voir, dit-il. Les États-Unis et l'URSS ont évité l'affrontement militaire pour 2 raisons principales. 1, la dissuasion nucléaire. Tout conflit armé entre les deux puissances aurait presque inévitablement débouché sur l'anéantissement mutuel. La guerre était donc impensable. 2, leurs zones d'influence respectives sur le terrain européen étaient clairement délimitées et respectées de part et d'autre. Il en va tout autrement sous nos yeux entre Washington et Pékin. La guerre n'est pas inimaginable. La miniaturisation et la sophistication des armes nouvelles peut provoquer une guerre nucléaire limitée. le terrain d'affrontement, en outre, est le sud-est asiatique où la Chine entend établir son hégémonie en évinçant les États-Unis. Les points chauds sont les deux Corées et Taïwan. En outre, les références historiques des Chinois ne sont pas celles des Américains. Là où ces derniers s'en rapportent aux thèses géostratégiques de Mackinder, selon qui la puissance qui domine le heartland eurasiatique obtient forcément l'hégémonie mondiale, Pékin pense d'abord à prendre sa revanche sur ce qu'ils appellent le siècle d'humiliation, celui que lui ont infligé les Britanniques et les Français dans la deuxième moitié du 19e siècle et les Japonais dans la première moitié du 20e. La ligne Deng Xiaoping, modernisation et ouverture, consistait à s'intégrer à l'ordre mondial voulu par les Américains en vue de parvenir à une prospérité qui permette aujourd'hui à la Chine d'acquérir une puissance militaire considérable. Mais les Américains n'ont pas compris qu'elles n'avaient rejoint le système mondial pas pour y contribuer en acceptant les règles, mais dans le but de le défier de l'intérieur.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.